ou sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
France Inter,
première radio de France.
Vous écoutez France Inter, il est 18h. Hola Fabienne Sintès.
Ah mais c'était hier. Donc bonsoir Marie, bonsoir Marine, à demain. Les filles, nous on y va, le 18-20 de France Inter est ouvert, ravi de passer ces deux heures avec vous. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, Horizon 2035.
Pour fermer les centrales électriques à charbon, voilà ce qu'annoncent aujourd'hui les pays du G7, accord important concernant l'énergie fossile la plus émettrice de carbone, mais c'est loin d'être une mince affaire. Certains pays sont encore très dépendants au charbon et il y aura des exceptions. Explication dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin ?
Échange tendu à l'Assemblée nationale entre le ministre de la Justice et la France Insoumise après l'audition par la police de Mathilde Panot, notamment pour apologie du terrorisme. Les heures supplémentaires des profs menacées par les économies à faire sur le budget de l'État. L'inflation ralentit, la consommation rebondit. L'INSEE confirme l'éclaircie au-dessus de l'économie française.
Et l'économiste Philippe Moati sera l'invité de ce journal.
Et puis, les fleuristes dans les starting blocks à la veille du 1er mai et donc du brin de muguet.
Le sommaire du 18-20 ce soir passe d'abord par la Chine et son prince rouge. Xi Jinping qui sera à Paris la semaine prochaine, qui est surtout au cœur d'un long podcast qui est en ligne à partir d'aujourd'hui. Pour comprendre la machine, la pensée du président chinois, nous serons avec Dominique André qui signe ce podcast. Ce soir, nous sommes aussi dans un Kurdistan irakien qui craint pour de bon une offensive turque avant l'été. Kevin, vous nous direz pourquoi la société australienne manifeste en très grand nombre et franchement, il était temps. Dans le monde à 18h50, Franck Madvon est en Géorgie, manifestation et contre-manifestation. Et Caroline Gillet dans Caroline au Pays des 27 vous présente un fonctionnaire aux relations extérieures qui a une autre ville, manifeste aussi tous les jeudis pour la paix à Gaza. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Nous avons avec nous deux des auteurs du rapport sur les écrans et les enfants rendu aujourd'hui à Emmanuel Macron. Ils répondront à toutes vos questions.
France Inter.
C'est la source d'énergie la plus polluante.
Et c'est donc celle dont certains États essayent de se débarrasser au plus vite pour lutter contre le réchauffement climatique. Le charbon, qui représente 40% des émissions de gaz à effet de serre émises par l'utilisation d'énergie fossile. Alors ce soir, les ministres de l'Environnement du G7, les 7 pays les plus riches du monde, se donnent un objectif, fermer les centrales électriques qui fonctionnent au charbon progressivement au plus tard, en 2035. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Kevin.
C'est un pas de plus dans la lignée de la dernière COP.
Oui, c'est la suite logique de la COP climat de Dubaï. Les États s'étaient engagés à emprunter le chemin de la sortie des énergies fossiles avec une formule un peu alambiquée. Là, les pays du G7 qui représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre posent une date, 2035. Emmanuel Macron aurait préféré 2030, il l'avait tenté mais il n'a pas réussi à convaincre le Japon. Un tiers de son électricité en dépend. Ce sera donc dans la première moitié de la décennie 2030.
Sauf que ce n'est pas si simple, Célia, puisqu'il y aura des exceptions.
Oui, ce n'est pas un détail. Parmi les pays du G7, certains sont très producteurs de charbon. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, ils pourront continuer s'ils disposent de captage de carbone, des systèmes pour récupérer le CO2 à la sortie des centrales. Ensuite, il est séquestré, ça évite qu'il réchauffe le climat. Et dans ce cas, les centrales à charbon ne fermeront pas, ce qui irrite les ONG comme Gaïa Fèvre du réseau Action Climat.
C'est toujours cette idée d'utiliser la technologie de capture et de stockage de carbone qui vient justifier la possibilité de polluer. Sauf que ces technologies, elles sont très coûteuses et elles sont peu efficaces. Donc, il faudra être très attentif dans la mise en œuvre. Donc, ça dilue encore une fois l'engagement du G7. Il y a encore des failles et il y a des inquiétudes.
Et pour cette ONG, le grand absent, c'est le gaz. Pas d'objectif de réduction au G7. Ensuite, il va falloir convaincre d'autres pays comme l'Inde. Le charbon, c'est 70% de son électricité. Et financer cette sortie, ce sera l'un des objectifs de la prochaine COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan.
Célia Kiré, spécialiste environnement de France Inter. Et sur la question du plastique, cette fois, le G7 dit, je cite, « aspirer à réduire la production mondiale pour mettre fin à la pollution, mais sans donner d'objectif clair pour l'instant. » alors que les négociations pour un traité mondial sur le plastique n'ont toujours pas abouti. Aujourd'hui à Ottawa, les États ont reporté le débat sur la production.
La contestation s'étend dans les universités françaises.
Après Sciences Po et la Sorbonne à Paris, plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu aujourd'hui à Rennes, à Lyon, encore à Dijon. À chaque fois, les forces de l'ordre mobilisées pour lever les éventuels blocages. On fera le point dans le journal de 19h. Une mobilisation appuyée et soutenue côté politique par la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, concerné aujourd'hui, toujours en lien avec la situation au Proche-Orient, par la convocation de deux de ses membres devant la police pour apologie du terrorisme. Il s'agit de Rima Hassan, avocate franco-palestinienne, candidate aux élections européennes, et de la députée Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, où le sujet a été abordé cet après-midi lors des questions au gouvernement. Et Laurence Perron, ça a donné lieu à de nouveaux échanges tendus.
La question du coordinateur en chef de la France Insoumise était attendue, Manuel Bompard.
Votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. La Commission nationale des droits de l'homme dénonce une circulaire du garde des Sceaux qui dévoile l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition. Quand allez-vous cesser de défigurer la France ?
La réponse du garde des Sceaux un peu moins.
La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. Après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire. Vos amis à vous, ce sont les mollas. Vous devriez avoir honte.
Et la majorité lui emboîte le pas. La députée Renaissance, Violette Spielboot, se fait confirmer par la ministre de l'Enseignement supérieur qu'il y aura bien des sanctions pour les étudiants qui ont occupé Sciences Po, soutenues par LFI. Sylvie Retailleau.
Certains irresponsables soufflent sur les braises. Ils instrumentalisent le conflit, utilisent malheureusement nos étudiants et je dirais même en appelant au soulèvement. Cela suffit.
Laurence Perron à l'Assemblée nationale pour France Inter et la ministre de l'Enseignement supérieur annonce une réunion un jeudi avec les présidents d'université pour prendre des mesures contre ces blocages. Le Proche-Orient, Stéphane Séjourné, s'y trouve. Ce soir, le ministre français des Affaires étrangères s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui promet une offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, je cite, avec ou sans accord de trêve. Israël a dit attendre jusqu'à demain soir une réponse du Hamas sur cet accord.
Voilà maintenant un scientifique empêché d'entrer dans son laboratoire.
Et il manifeste depuis ce week-end. Ça se passe en Chine, il s'appelle Zhang Yongzhen, il est virologue et ce n'est pas n'importe qui puisque c'est lui le premier à avoir séquencé le virus du Covid-19 en janvier 2020. Il n'a désormais plus accès à ses recherches à Shanghai. Nouvel exemple de la pression exercée par les autorités chinoises sur tout ce qui concerne le Covid. France Inter à Pékin, Sébastien Berriot.
Zhang Yongzhen vient de publier les photos sur le réseau social Weibo. On peut y voir le virologue assis sur un carton devant son laboratoire où il a passé une première nuit. Le scientifique veut obtenir le droit de revenir sur son lieu de travail. Ce week-end, l'accès lui a été interdit par des gardes, officiellement pour des raisons de sécurité, mais ce n'est pas la première fois que l'homme est empêché de travailler. Depuis 2020, plusieurs mesures ont déjà été prises pour tenter de paralyser ses recherches. Les autorités n'ont pas apprécié le geste du virologue qui ose en janvier 2020 rendre public un premier séquençage du Covid sans l'accord du gouvernement. 4 ans plus tard, ce nouvel incident montre que le régime communiste cherche toujours à contrôler l'information sur les origines du virus et une éventuelle responsabilité de la Chine dans son apparition. Le virologue, lui, ne baisse pas les bras. « Je n'abandonnerai pas, je veux la vérité et la science », écrit-il sur Weibo, avant de lancer ce sitting de protestation particulièrement osé en Chine. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
La suite, Kevin, pardon, les Français encore plus, un peu plus dépensiers en ce début d'année.
Si l'on en croit en tout cas les chiffres de l'INSEE pour le premier trimestre de 2024, la consommation est en hausse de 0,4%, ce qui pousse un peu la croissance du PIB, la richesse nationale, plus 0,2%. Le gouvernement y voit une manifestation, je cite, de la solidité de notre économie.
Bonsoir Philippe Moati.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Cité. Vous êtes cofondateur de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, de la solidité de notre économie. On comprend bien la conclusion qu'en tire le gouvernement. Philippe Moati, est-ce que l'expert que vous êtes, lui, dit oui, il y a au moins un réveil de la consommation ?
Écoutez, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Ouais. En même temps, on ne va pas gâcher son plaisir. Les indicateurs sont un peu meilleurs. Alors, c'est trop tôt pour savoir si c'est l'amorce de quelque chose de durable ou non. Vous savez, d'un mois sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre, il y a pas mal de fluctuations, en fait. Donc, il faut regarder un peu les tendances. Or, si on regarde les tendances, on a l'impression, il y a des petits signes très timides qui semblent indiquer qu'on est en train de sortir du tunnel, quoi. Et évidemment, on a très envie de rapprocher ça du recul de l'inflation.
Alors voilà, parce qu'on dit en chiffres, est-ce qu'on dit qu'on est revenu, Philippe Moiti, à des normes, j'ai mis des guillemets pour les gens qui nous écoutent, à des normes d'inflation qui sont au fond des normes d'inflation désormais classiques, en fait. Est-ce qu'on est revenu au moins à ça ?
On n'est pas loin, puisque la norme, un peu arbitraire d'ailleurs, est à 2%. Le dernier indice est à 2,2. Donc c'est conforme à ce qu'on anticipait. On se disait que arrivé au second semestre, on arriverait à un niveau d'inflation jugé normal, raisonnable. Alors il faut espérer qu'il n'y ait pas de nouvelles tensions inflationnistes qui se réveillent, car on voit le cours des matières premières importées qui remonte. Donc soyons prudents, mais pour l'instant on est sur la bonne trajectoire, et c'est ça qui encourage modestement les consommateurs à être un peu plus généreux dans leurs dépenses.
Alors un peu plus généreux, effectivement, on parle d'un volume de dépenses qui remonte, mais pour ce qui est de l'alimentaire. Or, quand l'alimentaire remonte, est-ce que c'est un vrai signe de retour de morale au fond, ou est-ce que c'est juste une réadaptation à une situation antérieure ?
C'est plutôt ça, parce qu'on a quand même connu une période longue, quasiment sur 2 ans, de recul de la consommation alimentaire en volume, ce qui est quand même inédit à ma connaissance. Alors c'est vrai qu'on partait d'un point haut après la crise sanitaire. Et là, effectivement, depuis plusieurs mois, on assiste à une petite reprise, modeste, tout ça est très modeste, mais une petite reprise malgré tout qui est une inversion de tendance en volume. Et c'est concomitant, non seulement recul de l'inflation alimentaire, mais même on commence à observer des baisses de prix. Elles sont assez localisées, quand on regarde globalement, c'est 0, quelque chose chaque mois. Mais quand même, pour la psychologie des consommateurs, constater que la hausse des prix est arrêtée, c'est un élément favorable.
Quels sont les critères, Philippe Moiti, qui montreraient qu'on est passé en gros à l'étage supérieur, qu'on monte une marche, c'est-à-dire qu'il y a un vrai changement psychologique, qu'on arrive à un type de dépense morale en hausse? C'est quoi le critère? Parce qu'on voit que la restauration, l'hébergement frémissent un tout petit peu aussi. Ça veut dire loisir. À quel moment on se dit c'est bon, on est en train de monter sur la marche supérieure?
Mais il faudra déjà que la conjoncture du pouvoir d'achat s'améliore. Donc là, les chiffres dont on dispose sont plutôt bons. On a eu une croissance de 0,7% au premier trimestre, en grande partie parce que c'est la conséquence des augmentations, des ajustements qui se sont opérés à la fin de l'année. Donc c'est plutôt bon. Mais le bon indicateur, c'est les indicateurs psychologiques. Vous savez, on a des enquêtes qui sont en pratique, à l'Obsoco aussi, où on essaie de mesurer un peu le moral, entre guillemets, des ménages. Et là, honnêtement, pour l'instant, le frémissement est infime. Ça s'améliore un peu, mais on reste à des niveaux historiquement très très bas. Notamment, on sent que le temps, l'époque est plutôt encore à l'épargne qu'à la dépense inconsidérée, quoi. Et le taux d'épargne, d'ailleurs, est resté à un niveau très élevé. On flirte avec 18%, ce qui est relativement inédit.
Ce qu'on comprend bien en vous écoutant, Philippe Moiti, c'est que les consommateurs sont d'une prudence de sioux, en gros, donc ils veulent bien effectivement ouvrir un peu plus leur porte-monnaie parce qu'ils peuvent le faire maintenant, tout en se disant à la première occasion, je le referme. C'est ça que j'entends en vous écoutant.
Mais un peu ça, puis vous savez, là, on globalise, on parle des consommateurs, mais l'épisode inflationniste qu'on a vécu quand même a porté un coup assez dur au pouvoir d'achat des catégories populaires et des classes moyennes inférieures. Donc elles continuent d'être très prudentes dans leur comportement de consommation. Dans nos enquêtes, on a encore 13% des Français qui disent ne pas manger tous les jours à leur faim. Donc il y a encore des consommateurs qui sont sous pression, et d'autres qui avaient déjà accumulé beaucoup d'épargne pendant la crise Covid, qui en fait ont été relativement épargnés par la conjoncture inflationniste et qui ont retrouvé le goût de la consommation, notamment de consommation de loisirs, effectivement.
Philippe Moiti, économiste et cofondateur de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, merci beaucoup.
Et si l'économie française se porte un peu mieux, les finances publiques, elles, doivent toujours s'alléger de 20 milliards d'euros cette année dans l'éducation nationale. Il faut trouver 700 millions, et ce soir, on apprend que le ministère de l'Éducation demande à certains rectorats de trouver une partie de ces économies sur les heures supplémentaires des professeurs. Bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Des chefs d'établissement ont reçu un mail leur indiquant que ces heures ne seraient plus payés jusqu'à la fin de l'année.
Oui, et ce mail a été retransmis aux professeurs de plusieurs académies pour les informer qu'ils ne seraient plus rémunérés pour les heures qu'ils effectuent en plus de leurs heures de cours habituelles, ce qui signifie que tous les projets, les dispositifs particuliers mis en place dans les établissements vont s'arrêter avant la fin de l'année scolaire. Exemple avec Guillaume Ozou, professeur d'EPS en éducation prioritaire au collège Guy Moquet de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Il était jusque-là payé en heures supplémentaires pour une formation en secourisme qu'il dispense aux élèves.
On fait passer tous nos élèves de 4e, on a 8 classes de 4e, il y en a une qui ne pourrait plus faire. On a aussi des projets, par exemple, pour amener les élèves à la piscine. On avait un projet aussi intéressant, puisqu'on est quand même, aurait plus de soutien aux élèves en difficulté, avec du tutorat, avec des professeurs de maths, de français, etc., qui reprenaient ces élèves en petits groupes. Tout ça, ça va être terminé, puisque c'était payant en heures sup. C'est en plein milieu de l'année, on nous retire les heures. C'était jamais arrivé, cette manière de faire est incroyable. Enfin, vraiment, c'est la catastrophe en ce qui nous concerne.
Ce sont les élèves qui seront pénalisés, en particulier ceux qui passent des examens. Car les séances de révision, d'entraînement à l'oral pour le bac ou le brevet sont payées en heures supplémentaires. Le ministère explique qu'il a chargé les recteurs de demander des efforts là où ce serait le moins difficile. Mais pour l'instant, la consigne est la même pour tous les établissements, ce qui suscite beaucoup de colère et d'inquiétude.
Sonia Prince, c'est spécialiste éducation de France Inter. Direction maintenant la cour d'assises de Paris où l'on suit le procès de cet homme accusé d'avoir recruté des mercenaires originaires de Géorgie pour se venger de son kiné qu'il tenait pour responsable de ses douleurs chroniques. Jean-Philippe Degnaud, vous êtes au palais de justice historique de Paris où cet après-midi avait lieu le dernier interrogatoire du principal accusé, très embarrassé par les questions de la cour.
Oui, ce n'est jamais très simple de convaincre qu'on n'était pas au courant d'un règlement de compte quand 4 années d'instruction semblent démontrer le contraire et que tous vos co-accusés vous désignent clairement. Alors, Sylvain Ferron se bat avec les mots. Il construit des réponses tellement contextualisées qu'à la fin, la présidente est obligée de reposer la question à laquelle il n'a finalement pas répondu. La cour s'agace un peu vite de ce petit jeu. Mais non, là, sur l'accusé, c'est sa compagne qui a tout imaginé, tout mis en place. Mais alors, les écoutes téléphoniques dans lesquelles il dit « Il ne faut pas le lâcher, ce bâtard, je vais faire les choses et m'exfiltrer. » C'est du pur délire, répond Ferron. « J'étais sous morphine. » Il assure que ce qui est arrivé au kinésithérapeute est purement dramatique. « Si j'avais eu l'ombre d'un soupçon, j'aurais tout fait pour que ça ne se produise pas. » Et à la fin, Ferron s'excuse très sincèrement. Mais « Vous vous excusez de quoi ?» demande malicieusement l'avocat général. « Bah, je m'excuse parce que c'est le minimum qu'on puisse faire, » répond Ferron. « Moi, je ne m'excuse que de ce dont je me sens responsable, » conclut le représentant de l'accusation.
Un compte rendu d'audience signé Jean-Philippe Degnaud. Plus de personnes placées de plus en plus longtemps. Voilà le principal enseignement du rapport annuel de la CIMADE. Les chiffres de 2023 publiés aujourd'hui. L'association d'aide aux migrants parle ici des CRA, les centres de rétention administrative. Où sont retenues les personnes sur le point d'être expulsées. 28 jours passés dans ces centres en moyenne l'an dernier, une semaine de plus qu'en 2022. Pourtant, d'après Paul Chiron, chargé des actions juridiques à la CIMADE, les expulsions dites abusives ou illégales se multiplient.
Toutes les associations ont pu voir qu'il y a une augmentation des expulsions illégales. C'est-à-dire des expulsions dans lesquelles l'administration va décider d'expulser alors qu'elle n'avait pas le droit. Ça peut se rencontrer dans des procédures devant les tribunaux, mais aussi alors que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, avait interdit l'expulsion. Ça a été le cas 2 fois en 2023. Par exemple, en décembre, une personne haïtienne a été expulsée vers un pays qu'on sait en guerre, que ce soit la Cour nationale européenne d'asile, que ce soit le Haut Commissariat pour les réfugiés. Tous et toutes dénoncent la situation dans ce pays. Et l'administration a décidé de violer une décision de la Cour européenne des droits de l'homme et d'expulser à tout prix. On peut être inquiet sur l'état de droit parce qu'il y a une remise en cause réelle de la place et de l'autorité du juge.
Paul Chiron de la CIMADE au micro de Faustine Calmel. Le renseignement français s'attend à un 1er mai plus apaisé que l'an dernier où les manifestations tombaient en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Mais les autorités s'attendent toujours à la présence de quelques centaines de Black Blocs, notamment dans les grandes villes. À l'occasion de cette journée internationale des travailleurs et travailleuses, le 1er mai qui rime aussi avec Muguet, alors les fleuristes se tiennent prêts, comme ici à Amiens, Pierre-Antoine Lefort.
Au fond du magasin, Lison, en CAP fleuriste, enchaîne les petits bouquets.
C'est beaucoup de petites choses à la chaîne, en fait. Tout ce qui est brin de muguet à l'unité, ou 2 brins, une rose, ou toutes les petites compos, tout ça, c'est ce qui se vend le plus souvent. Il faut le faire rapidement. Voilà, c'est la fête du travail, pas pour les fleuristes.
Ici, on se prépare depuis 3 jours pour être fin prêt.
On a toutes les compos aussi terre à faire, en fait. Le muguet en pot, le muguet en griffe.
Émilie Garbi-Chafik est la fleuriste de l'atelier fleuri.
Alors, le 1er mai, quand on est fleuriste, ça représente vraiment une fête. fête très importante encore aujourd'hui pour tous les Français, qui représente vraiment une grosse journée sur l'année.
Bien sûr, il faut réussir à se distinguer par rapport aux autres professionnels et aux stands de rue qui fleurissent un peu partout. Et la tendance, c'est au soliflore, ces vases très fins pour de très petites compositions.
Ça marche très très bien le soliflore. Donc on a des petits pots de toutes les couleurs assez modes, des transparents, puis des couleurs pop comme cette année, où on insère généralement trois brins de muguet avec normalement 13 clochettes pour le bonheur. Et on met des petites fleurs comme des petites roses branchues qui sont des polyanthas, des fraisias, du wax, enfin vraiment des choses qui sentent bon.
L'atelier fleuri s'attend à tripler son chiffre d'affaires par rapport à une journée normale.
Pierre-Antoine Lefort, France Bleu, Picardie, enfin en foot, c'est leur dernière occasion de sauver leur saison. Les joueurs du Bayern Munich, dépossédés du titre de champion d'Allemagne pour la première fois depuis 12 ans, ils jouent ce soir leur demi-finale aller de la Ligue des Champions face à l'infatigable Real Madrid. Coup d'envoi à 21h à Munich.
Kevin Dufraîche, merci. Vous reviendrez tout à l'heure en passant sous les radars, car vous êtes très souple.
Absolument.
On jette un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Élodie Calac, bonsoir. Un temps encore perturbé ce soir.
Oui, bonsoir à tous. En effet, on a des pluies sur la Bretagne, sur une grande partie est également. Des orages possibles sur le nord-est et au nord de la Seine. Demain, ce sera pluvieux sur la moitié sud et sur la moitié ouest, avec des pluies parfois marquées vers la Provence, le Massif central, le centre-val de Loire et la Normandie. Des orages possibles l'après-midi, mais ça s'éclaircira quand même près de l'océan. Sur les Alpes frontalières, beaucoup de neige à haute altitude, mais plus bas, hein, sur les Pyrénées, vers 1000 à 1500 mètres.
Et des orages forts attendus sur le nord-est l'après-midi.
Oui, sur la Bourgogne-Franche-Comté, avec des pluies soutenues, de la grêle. Ils progresseront vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes pour la soirée et la nuit. Il fera plus frais demain, hein, sur l'ouest et le sud, 10 à 18 degrés, et puis 20 à 26 encore entre le nord de la Seine et le nord-est.
Allez, Elodie Calac de Météo France qui revient tout à l'heure après le journal de 19h. Ce soir, nous sommes avec le Prince Rouge, Xi Jinping et Dominique André qui racontent en grande longueur dans un podcast tout chaud qui vient de sortir la vie de cet homme. Nous sommes au Kurdistan irakien qui se prépare à une offensive de la Turquie.
Les membres du PKK ont grandi dans ces montagnes. On connaît bien la région, c'est pratique pour tendre des embuscades. La Turquie n'arrivera pas à prendre Kandil.
Et c'est un reportage à Kandil signé Théo Renaudon. En Autriche, nous sommes également pour une enquête qui embrase et embarrasse l'extrême droite. En Géorgie avec Franck Madvon et avec un fonctionnaire européen qui a une vie de fonctionnaire d'un côté puis une vie de militant aussi, ce sera avec Caroline Gillet. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne avec nous et pour vous les deux co-auteurs du rapport sur les écrans et les enfants pour répondre à vos questions. Un rapport, vous le savez, commandé par Emmanuel Macron. Ils nous le diront, ils ont été secoués, ils ont été parfois même bousculés par ce qu'ils ont entendu de la part de leurs interlocuteurs. Vous savez qu'ils préconisent de proscrire totalement les écrans pour les moins de 3 ans, de n'autoriser le téléphone qu'à partir de 11 ans, mais sans Internet. Et puis bien sûr, on ne parle pas que du temps passé devant un écran qui parfois perturbe le sommeil, qui pousse à la sédentarité, mais on parle de contenu. Si vous êtes ado, un peu plus, un peu moins, appelez-nous pour nous parler de vos usages et peut-être de ce que vous voyez défiler que vous ne voudriez pas voir. Appelez-nous si vous êtes parent, si vous êtes médecin peut-être également. Tout cela bien sûr 01 45 24 7000 et c'est le même chemin par WhatsApp.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Aujourd'hui, la plupart de notre vie administrative se passe en ligne. Nos impôts, nos relations avec la CAF, tout ça se fait sur Internet.
Le code.
Qui a décidé cela? Avec quelle idée du rôle de l'État et quelles conséquences pour les citoyens? Si c'était un mot qu'il résumait, celui de l'État plateforme.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Allez, le monde est vaste et on n'a pas toute la journée. C'est parti.
France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Chine ce soir.
Le peuple n'est pas coupable, la révolution est justifiée. Le peuple n'est pas coupable, la révolution est justifiée.
Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il y a derrière ce slogan lancinant, carrément effrayant même, j'ai envie de dire. Nous sommes pendant la révolution culturelle en Chine, dans l'histoire de Xi Jinping, ça a vraiment du sens. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Fabienne.
On est heureux de vous avoir avec nous. Dominique, vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de France Inter. Vous signez un podcast qui sort ce mardi, 9 épisodes, travail très à longueur, pour raconter l'histoire de cet homme, Xi Jinping, derrière le président qu'il est, l'histoire de son ascension fulgurante, d'une ambition qui est très claire dès le début. On va voir comment elle se manifeste et puis surtout comment il réécrit à la fois l'histoire de son pays mais aussi la sienne, en fait, ce Xi Jinping. Et c'est pour ça que je voulais commencer sitôt et au début. D'abord, le podcast s'appelle Le Prince Rouge. Vous nous expliquez, Dominique, ce que ça veut dire, le Prince Rouge?
Alors, être Prince Rouge en Chine, c'est extrêmement prestigieux parce que ça veut dire que vous êtes le fils de l'un des fondateurs de la République populaire de Chine. Donc, Xi Jinping est le fils de Xi Zhongxun, si c'est le nom de famille, qui était un compagnon de route de Mao Tse-tung, qui a participé à la longue marche, et qui a participé à cette guerre civile qui a amené les communistes au pouvoir en 1949.
Et donc, il est né en 53, Xi Jinping, effectivement, révolution en 49. Mais donc, ce que ça veut dire, et il faut le rappeler, c'est que tous ses fils et filles de haut dignitaires sont élevés dans la soie, et sont élevés à part, en fait, complètement à part.
Oui, parce qu'en fait, ces princes rouges, ils sont assez nombreux en Chine. Ils forment vraiment une caste, on peut dire, l'aristocratie rouge. En fait, Xi Jinping, lui, a été élevé, comme pas mal de princes rouges, à Zhongnanrai, qui est le quartier gouvernemental, attenant à la cité interdite des empereurs de Chine. Et donc, derrière les murs hermétiques de cette nouvelle cité interdite, ils ont vécu de façon très privilégiée. Ils avaient accès à des distractions, ils avaient accès à une nourriture qui n'était pas celle du peuple. Ils vivaient extrêmement à part et effectivement étaient très privilégiés.
Et comme vous dites, distractions que d'autres n'ont pas. Moi, j'étais très étonnée d'entendre qu'il y avait des balles toutes les semaines, par exemple, en écoutant votre podcast. Et que ça m'a paru même tellement étonnant.
Parce que, en fait, derrière ces murs qui les protégeaient de la population, oui, il y avait une vie entière, puisque cette aristocratie rouge vivait de manière très, très autonome. Ils étaient vraiment coupés du peuple. Donc, Mao Tse-tung avait une piscine, il y avait des balles. Mmh. Les enfants, comme Xi Jinping, allaient dans des écoles spéciales. Notamment, lui allait à l'école du 1er août, où ont été éduqués les enfants de l'élite rouge.
Et si j'avais vraiment envie qu'on insiste là-dessus, Dominique, pour démarrer et bien comprendre, c'est parce que quand on est élevé là, et quand on est ce prince rouge-là, ça veut dire qu'on est élevé dans l'idée que nous sommes les successeurs. Et qu'après la génération en place, ce sera nous, de toute façon, qui prendrons le pouvoir en Chine. C'est très clair, et y compris quand on est très très jeune dans cet endroit-là.
Oui, parce qu'il faut comprendre que quand on vit effectivement à Zhongnanrai, donc dans ce quartier gouvernemental, finalement, on vit avec le gouvernement chinois de l'époque. Xi Jinping, grâce à son père Xi Zhongxun, a connu Mao Tse-tung, a connu vraiment tous ceux qui ont participé à la fondation de la République populaire de Chine, donc à la Chine communiste. Donc en fait, effectivement, ils sont élevés dans l'idée qu'ils sont les fils d'eux, et que finalement, ils sont les seuls à pouvoir savoir ce qu'est la Chine communiste et comment transmettre les valeurs du Parti communiste. Ils estiment que ce sont les seuls qui puissent effectivement être aux commandes de cette Chine rouge, parce qu'ils en sont finalement les enfants.
Et alors, c'est effectivement dans cet esprit qu'a été élevé Xi Jinping, et puis dans son histoire, il a eu l'occasion déjà de le dire entre les lignes, c'est des choses que l'on connaît en tout cas. Dans son histoire, il y a le grand bond en avant, l'échec du grand bond en avant, et puis le début de la révolution culturelle. Il part, le père de Xi Jinping, et donc lui avec, dans cette immense marée de la révolution culturelle. Et là, il faut dénoncer ses parents, son père, dénoncer sa sœur qui finira par se suicider. C'est ça aussi l'histoire de Xi Jinping, et qu'il faut rappeler, Dominique.
Oui, parce que Xi Jinping, effectivement, a eu, comme vous le disiez, une enfance dorée à Zhongnanrai, mais finalement, cette période dans sa vie n'a pas été si longue que ça. À partir de l'âge de 9 ans, on peut dire que la vie de Xi Jinping commence à basculer.
Parce que le grand bond en avant, c'est 58, et l'échec du grand bond en avant...
59. Voilà. À partir de 59, en fait, si vous voulez, effectivement, à Zhongnanrai, il y a quand même pas mal de grabuges, parce que autour de Mao Tse-tung, il y a une contestation des gens qui lui en veulent de cet échec cuisant du grand bond en avant, qui a entraîné, comme on sait, une famine avec peut-être plusieurs dizaines de millions de morts. Mmh. Les historiens parlent de 40 millions de morts hein, après le, avec, au moment du grand bond en avant. Donc en fait, Xi Jinping, à ce moment-là, étant le fils de Qin Gongsun, se sent lui aussi victime de ce qui va être mis en place par Mao Tse-tung, qui va se séparer d'une partie de ses adjoints, on peut dire de sa cour, qui conteste effectivement l'échec du grand bond en avant. Et Mao Tse-tung, qui se sent un peu en retrait, presque isolé, va essayer de renverser la table, de reprendre la main en engageant cette révolution culturelle qui va marquer vraiment un moment très difficile, une rupture dans l'enfance dorée de Xi Jinping. Sa vie va basculer à partir de la révolution culturelle.
Il sera envoyé, comme beaucoup d'entre lui, à la campagne dans ce qu'on appelle la Terre jaune. Et il en reparlera bien après, bien plus tard. Vous avez retrouvé, qu'on entend dans votre podcast, une interview à la télé chinoise qui date de 2004. Quand je dis bien plus tard, il y en a très très peu des extraits de Xi Jinping. C'est quelqu'un qui a été très avare en parole. Il n'est pas encore à la tête de son pays, évidemment, en 2004. Et il parle de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a fait à ce moment-là dans cette terre jaune. Écoutez-le.
La première fois qu'on est arrivé, en regardant ces maisons dans des grottes au milieu de la montagne, avec ces lampes à kérosène qui clignotaient, vous savez ce que j'ai dit à mes camarades ? J'ai dit, vous ne trouvez pas qu'on ressemble à des hommes des cavernes ? C'était très inapproprié. Mais c'est dans cet environnement que nous avons vécu pendant 7 ans. Au début, on avait peur de ces villageois qui s'installaient sur nos couchettes. Ensuite, on leur proposait de dormir avec nous. Il y avait 4 ou 5 jeunes qui vivaient dans ma maison avec moi. Le soir, après le dîner, eux et d'autres villageois venaient chez moi les uns après les autres pour m'entendre parler du passé et du présent. Je connaissais beaucoup de choses et ils voulaient que je leur raconte. À quoi ressemble Pékin ? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Ils étaient très curieux.
Et la raison, Dominique André, pour laquelle j'ai voulu qu'on écoute cet extrait, c'est que c'est là, au fond, c'est à partir de ce moment qu'il forge sa narrative, Xi Jinping, et qu'il fabrique même sa propre histoire pour que cette histoire soit adaptée à l'ambition qui est la sienne.
Alors, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qui est quand même important, je pense, il faut le souligner, c'est que Xi Jinping a 15 ans quand il est envoyé à la campagne, à plus de 1000 km de sa famille. C'est un ado qui part avec un groupe de jeunes citadins, de jeunes instruits de Pékin, et qui se retrouve dans une campagne très pauvre. Il va vivre dans une grotte, puisque c'est le type d'habitat dans cette région. Vite, ouais. Donc en fait, on peut dire quand même que là, il décroche quand même beaucoup. Effectivement, il aurait pu sombrer à ce moment-là, comme ça a été le cas, effectivement, pour sa sœur qui, dit-on, s'est suicidée au moment de la révolution culturelle. Et Xi Jinping va rebondir, et c'est là, dans les terres jaunes du Shanxi, effectivement, qu'il va se forger une personnalité. Et d'ailleurs, on le sent très bien quand on retrace tout son parcours. Xi Jinping est un adolescent quand il part à la campagne sur les terres du Shanxi. Et quand il en ressort 7 ans plus tard, c'est une autre personne.
Et c'est ça,
il est transformé.
Et c'est ça qui est étonnant dans ce personnage quand on le connaît aujourd'hui. Parce que, et c'est d'ailleurs l'un de vos interlocuteurs qui le dit, il aurait dû être dissident, Xi Jinping, après ce qu'il a vécu pendant la révolution culturelle, lui et sa famille. Il aurait dû partir aux États-Unis, avoir une autre vie. Au lieu de ça, il décide de rentrer à l'intérieur d'un système qui lui a fait mal. Il veut rentrer au Parti communiste. Vous racontez qu'il fait 10 demandes d'adhésion, il n'y a que la 10e qui marche. Pourquoi, à votre avis, et qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme qui dit « je vais rentrer et je vais vaincre au fond ce système qui m'a fait tant de mal ?»
C'est le sinologue et politologue Jean-Philippe Béja qui nous raconte ça. C'est absolument passionnant, effectivement, cette interview de Jean-Philippe Béja. Xi Jinping, effectivement, à ce moment-là, aurait très bien pu rejeter le Parti communiste, qui finalement, qui est le parti qui a rejeté sa famille et qui lui a fait du mal. Effectivement, Xi Jinping, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ? On n'est pas dans sa tête. Mais effectivement, ce serait intéressant qu'un psychologue se penche effectivement sur cette décision. Peut-être que Xi Jinping s'est dit à ce moment-là, pour pouvoir gérer ma vie, pour pouvoir mener ma carrière, pour pouvoir décider de mon destin, est-ce qu'il ne faudrait pas que, à mon tour, et contrairement à mon père, ce soit moi qui prennent les décisions. Et comment prendre des décisions en Chine ? Comment être le plus fort ? C'est bien en rentrant au Parti communiste et en gravant les marches du Parti communiste, en gravissant les marches du Parti communiste peu à peu, comme il va le faire pendant, vous avez vu, de nombreuses années.
Pendant de nombreuses années, et vous le racontez très bien en étant extrêmement discret, donc on ne fait pas de bruit, on ne dit pas ce qu'on pense. Au moment où la Chine s'ouvre un peu sous Deng Xiaoping, on ne sait pas s'il est contre ou s'il est pour. Au moment de la répression à Tiananmen, là non plus, on ne sait pas s'il est contre ou s'il est court. Comme ça, personne ne peut rien dire sur lui. Il y a ce moment que j'ai voulu retenir aussi et que je trouve vraiment intéressant, c'est un nouvel extrait de votre podcast. Nous sommes aux États-Unis. Sous Barack Obama, il est en visite, il ne dirige pas encore la Chine, mais il vient voir une famille qu'il avait déjà vue dans l'Iowa, puisqu'il avait déjà été une fois aux États-Unis lorsqu'il avait 31 ans. Voici comment se passe la nouvelle rencontre.
Ce sont mes hôtes. Je me souviens que j'avais dormi dans la chambre de votre fils. Et je me souviens aussi que vous aviez une adorable fille. Elle m'avait posé beaucoup de questions. As-tu déjà vu des films américains ? Quand je lui ai dit que j'avais vu Meryl Streep dans The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, et le film Le Parrain, elle a été très surprise et m'avait répondu « Tu as regardé tellement de films américains. » Je me souviens aussi que vous aviez préparé des petits déjeuners très copieux tout en nous disant que vous n'aviez pas l'intention de nous faire grossir. Avant notre départ, vous nous avez offert des pop-corn. Tous ces souvenirs me reviennent. Vous êtes les premiers Américains que j'ai rencontrés. Donc mes premières impressions de l'Amérique, c'est à vous que je les dois. Alors pour moi, vous êtes l'Amérique. »
Très très rapidement, Dominique André, parce que je veux rien dévoiler non plus trop profondément de ce que vous nous racontez pendant 9 épisodes. Mais enfin, moi, je suis tombée de ma chaise. J'ai quand même appris qu'il avait une fille à Harvard, Xi Jinping, qui était protégée à la fois par les services chinois et les services américains. Ce qui est quand même un comble. Hein.
Qu'il a été, parce qu'elle est rentrée à Pékin. Oui, mais effectivement, elle a été étudiante aux États-Unis. Alors moi, ce que j'ai aussi découvert en Chine, c'est que les enfants de cette élite rouge, les enfants finalement des princes rouges, vont souvent faire leurs études aux États-Unis. Les dirigeants chinois sont fascinés par les États-Unis, tout en les rejetant.
La montée de Xi Jinping, ce qu'il est devenu après, comment il accède au pouvoir et ce qui se passe derrière, tout ça en 9 épisodes disponibles à partir de maintenant. Dominique, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, il y a une visite d'État du président chinois, ça commence lundi prochain, lundi, mardi, ici en France. Et puis, dans votre travail, il y a aussi un co-auteur, il s'appelle Romain Weber et on le salue. Il y a un rédacteur en chef, il s'appelle Sébastien Legeny, il y a un réalisateur qui est derrière la vitre, il fait coucou comme ça avec la main, il s'appelle Fabrice Laigle. Il y a une assistante à la réalisation qui s'appelle Karen Day. Il y a deux réalisateurs additionnels qui ont participé aux épisodes qui s'appellent Charles de Silla et Fanny Boyon. Et on les remercie, on vous remercie aussi chaleureusement. Dominique André, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Ensuite, ça se passe au Kurdistan irakien. Le PKK dans le nord du Kurdistan croit à une offensive turque dans l'été. Et le PKK a ouvert son territoire à Théo Renando, qui nous racontera pour aller jusqu'à 19h. Kevin Dufresne, sous les radars.
En Autriche, avec une enquête pour corruption en pleine campagne pour les législatives contre le favori des sondages.
Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madvon. Bonsoir, Franck.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. On va s'intéresser au combat des Géorgiens, les Géorgiens du Caucase, hein, je précise, contre une loi sur les agents de l'étranger qui menacent de restreindre grandement leur liberté.
Et Caroline au Pays des 27 avec Caroline Gillet.
Bonsoir.
Salut Caroline.
Oui, alors que les étudiants occupent des facs pour exiger le cessez-le-feu à Gaza, des fonctionnaires européens, le saviez-vous, pourtant soumis au droit de réserve, protestent aussi chaque jeudi depuis décembre devant le Conseil et la Commission à Bruxelles.
Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par le Cameroun avec Big Bassi Bundi, c'est le titre.
Speak my name. Feel your breath here on my skin. Want you now as I let go. All these feelings flood my heart. Feels like lightning under the moon.
Nous sommes au Kurdistan irakien ce soir dans le reportage d'Un jour dans le monde. Son animosité, pour ne pas dire plus, avec la Turquie n'est pas une nouveauté, mais cette fois, la crainte, c'est bien que la Turquie envahisse le nord de ce Kurdistan d'ici à l'été. Ankara veut créer une zone tampon le long de sa frontière pour éliminer les positions du PKK dans la zone montagneuse. La crainte est bien réelle. Le PKK se prépare à une offensive et le reste, c'est Théo Renaudot qui raconte.
Ici Kandil, montagne sanctuaire du PKK, c'est un peu leur QG. Aujourd'hui, 2000 combattants et sympathisants célèbrent le nouvel an kurde. Chants, slogans et discours politiques résonnent. C'est une fête en zone de guerre. Les bombardements turcs sont quotidiens. Est-ce qu'il y a des risques, selon vous, à être ici ? Est-ce que les gens qui font la fête ici, à Kandil, prennent des risques ?
Bien sûr qu'il y a des risques à être ici. La Turquie ne perd aucune opportunité de tuer des membres du PKK ou des civils.
Dire 28 ans, c'est un combattant du PKK.
Si ça se trouve, elle peut même frapper cette cérémonie. Ce midi encore, il y avait des drones turcs au-dessus de Kandil. Elle utilise des armes chimiques. C'est pourtant interdit, rien ne l'arrête.
Depuis des mois, la Turquie intensifie ces bombardements sur les positions PKK du nord de l'Irak, tous attendent maintenant de pied ferme l'offensive terrestre, comme ces deux guerriers russes.
Récemment, on a mis au point une arme anti-drone. On en a abattu 15 ces derniers jours. On a aussi des grottes pour nous protéger.
Et ça serait quoi les atouts du PKK face à la Turquie ?
Les membres du PKK ont grandi dans ces montagnes. On connaît bien la région, c'est pratique pour tendre des embuscades. Quand les soldats turcs arrivent, nous, on les attend. On a nos tunnels, notre connaissance des montagnes. La Turquie n'arrivera pas à prendre Kandil. Ce pays essaye depuis 40 ans, mais n'a jamais réussi.
Cette fois-ci, ça pourrait peut-être se passer différemment. La Turquie dispose du soutien apparent du gouvernement kurde irakien et de l'Irak fédéral.
Qu'ils essayent, qu'on rigole.
Madina est une mère de famille, sa sœur et sa fille ont été tuées dans la guérilla contre la Turquie.
L'Irak, la Turquie, le gouvernement kurde irakien, n'importe qui. Personne ne peut défaire le PKK et prendre nos montagnes. Kandil, Zab ou Matin, dans leur rêve, ouais.
Une offensive turque qui est donc ici prise au sérieux, mais qui n'a pas pour but d'éradiquer le PKK des montagnes kurdes irakiennes, selon le chercheur en sciences politiques Arthur Kenney, spécialiste de la question.
Le PKK ne peut pas être éradiqué militairement. La principale base du PKK, les monts Kandil, mais également d'autres possessions, tout cela, les Turcs ne peuvent absolument pas se lancer à l'assaut de ces territoires. L'armée turque est au maximum de son déploiement militaire et toutes les batailles que lancera l'armée turque seront des batailles coûteuses en vie. Les Turcs le savent, c'est pour cela que l'offensive risque d'être, mine de rien, limitée aux monts Gara.
Et concrètement, les monts Gara, qu'est-ce que ça représente ?
Une immense zone montagneuse, mais qui est bien contrôlée par le PKK. Or, le PKK, depuis ses bases du Mont Gara, mène des offensives et des attaques contre les patrouilles turques, contre les bases militaires turques installées au Kurdistan irakien. Et si la Turquie veut se maintenir avec un coût en vie humaine relativement réduit, elle doit attaquer le PKK, les bases du PKK, et réduire la puissance militaire du mouvement.
Offensive sur le PKK évoquée cette semaine par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une visite en Irak, la première depuis 13 ans.
Théo Renaudon pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et Kevin, c'est d'abord en Australie que vous nous emmenez, l'Australie qui a connu de grandes manifestations ce week-end.
Oui, pour dire assez, pour dire stop aux violences faites aux femmes. 27 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année, une tous les 4 jours. Et puis l'Australie a été marquée aussi par le meurtre de 5 femmes poignardées par un homme dans un centre commercial de Sydney. C'était début avril, d'où ces dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Melbourne, Sydney ou encore Canberra, la capitale où le Premier ministre travailliste Anthony Albanese s'est joint au cortège, essuyant alors quelques huées avant de prendre la parole quelques heures plus tard.
Then that day is a national crisis.
C'est une crise nationale, dit-il, appelant à un changement culturel à tous les niveaux de la société. Nous devons faire plus. L'empathie ne suffit pas, assure le Premier ministre, désormais attendu au tournant sur ce sujet. Il a promis des changements dans la loi.
Et nous voici en Autriche, où une enquête est ouverte en pleine campagne pour les législatives.
Et elle vise les favoris des sondages. Plusieurs cadres du FPÖ, le parti d'extrême droite, dont son chef de file Herbert Kickl. Des hommes qui ont été au pouvoir entre 2017 et 2019, hein, période durant laquelle le FPÖ formait une coalition avec les conservateurs. Et c'est justement sur ces années que des faits leur sont reprochés. Herbert Kickl est soupçonné d'abus d'influence, parce que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il aurait commandé des encarts publicitaires à un grand groupe de presse aux frais de la République d'Autriche, dit le parquet anticorruption de Vienne, le tout en échange d'une couverture médiatique favorable à son parti. Le FPÖ dénonce une accusation politique pour lui nuire. En pleine campagne, c'est déjà une affaire de corruption et de détournement de fonds publics, hein, qui avait eu raison de l'ex-chancelier conservateur Sébastien Kurz, qui avait démissionné en 2021.
Et puis nous sommes aux États-Unis, Kevin, avec une citronnade qui répare.
Oui, installer son petit stand devant la maison pour vendre des verres de citronnade et récolter ainsi un peu d'argent, c'est un classique, hein, américain. Mais là, Emory Johnson ne l'a pas fait pour partir en voyage scolaire. Non, elle l'a fait pour une toute autre raison, permettre à sa maman d'avoir une sépulture digne de ce nom en achetant une pierre tombale. Parce que sa mère, qui l'élevait seule, est morte brutalement le 13 mars dernier à 29 ans. Et la première fois qu'Emory se rend avec sa grand-mère au cimetière de Scottsboro en Alabama, eh bien elle constate que sa mère n'a le droit qu'à une petite plaque en métal. La famille n'a pas les moyens d'acheter une pierre. Alors le 1er avril, elle installe une table et vend de la citronnade toute seule, comme une grande, $1 le verre. La nouvelle fait le tour du quartier. Les gens donnent souvent alors bien plus, jusqu'à $300 pour un seul verre, explique fièrement Emory à la chaîne CBS. Elle a récolté ainsi plus de $15,000 en quelques jours. Et une entreprise locale de pompes funèbres a décidé d'offrir la pierre tombale. Emory, elle, se dit avec un grand sourire, très heureuse de voir qu'autant de gens aimaient sa maman.
Eh ben, écoutez, formidable, vous partez. Kevin, merci beaucoup et à demain avec la version de Limosis de la célébrissime chanson California Dreamin', rendue incontournable par les mamas and the papas.
All the leaves are brown, and the skies are gray. I went for a walk, yes I did, on a winter's day. I'll be safe and warm.
Mimosis de California Dreaming sur France Inter. Le Monde à 18h50 et Franck Madvon.
Fabienne Synthèse.
Le 18-20.
Franck, en Géorgie, le mouvement contre un projet de loi qui pourrait restreindre les libertés ne faiblit pas. Et ce soir, vous nous dites pourquoi le combat mené par les manifestants est aussi un combat pour l'Europe et contre Moscou.
Oui, voilà plus de deux semaines que les manifestants se mobilisent. Avant-hier, rassemblement massif à Tbilissi, la capitale de Géorgie. 20 000 personnes, c'est beaucoup dans ce pays de 4 millions d'habitants. Ce sont surtout des jeunes qui brandissent des drapeaux de l'Union européenne. Ils accusent le gouvernement de vouloir museler toutes les voix critiques, les journalistes, la société civile. Hier, le pouvoir a organisé un contre-rassemblement, des milliers de personnes pour défendre cette fois la loi en cause. Les médias qui couvraient l'événement ont vite constaté que des manifestants avaient été conduits sur place, notamment beaucoup de fonctionnaires. L'un d'eux témoigne auprès de l'AFP. Le maire de mon village m'a dit que je perdrais mon travail si je n'allais pas manifester.
Et alors, que dit précisément cette loi controversée ?
Alors, la loi vise à combattre l'influence étrangère. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle en Géorgie. Elle fait son retour, cette loi, après avoir été abandonnée il y a un an par le gouvernement sous la pression de la rue. Le texte oblige toute organisation, médias, ONG, dont au moins 20% du financement vient d'une source étrangère, à s'enregistrer comme servant les intérêts d'une puissance étrangère. En cas d'infraction, de lourdes amendes sont prévues. Le parti au pouvoir, le rêve géorgien, met en avant le besoin de transparence, mais pour les manifestants, aucun doute, l'objectif est d'étouffer l'opposition à 6 mois des élections législatives. Il compare le projet à la loi sur les agents de l'étranger votée en Russie. Moscou s'en est beaucoup servi, vous le savez, pour réduire au silence les voix critiques.
Et le vote d'une telle loi, Franck, serait un tournant pour la Géorgie.
Oui, ce pays du Caucase s'était éloigné de la Russie il y a une vingtaine d'années pour se tourner vers l'Occident. Un chemin choisi notamment par l'ancien président Saakashvili, aujourd'hui en prison. La Géorgie a obtenu en décembre le statut de pays candidat à l'Union européenne. C'est une aspiration pour 80% de la population, d'après les sondages. Mais la Russie exerce à nouveau une forte influence dans le pays. Le fondateur du parti au pouvoir, Bidzina Ivanichvili, dirige la Géorgie dans l'ombre. Il a justement fait fortune en Russie. Il est décrit comme paranoïaque et obsédé par l'Occident, un peu comme Poutine. Le gouvernement fait donc tout pour discréditer les manifestants, accusés d'être à la solde de puissances étrangères. Il parle d'un mouvement gay, ce qui est censé le disqualifier dans ce pays conservateur. Mais malgré des violences policières dénoncées par des ONG, les manifestants ne se laissent pas intimider et maintiennent la pression sur le pouvoir.
Et alors ce mouvement est suivi de très près évidemment en Russie comme en Occident.
Oui, pour les Européens, cette loi sur les agents de l'étranger est incompatible avec l'adhésion à l'UE. Ils y voient la main de Moscou et tout porte à croire en effet que le Kremlin est le marionnettiste du projet qui a déjà franchi une première étape au Parlement. Naturellement, Moscou dément toute ingérence et accuse les manifestants d'être des instruments de l'étranger. Les spécialistes en désinformation constatent que les pages Facebook pro-Kremlin évoquent même un putsch des États-Unis. Les manifestants géorgiens se battent autant pour leur liberté que contre ce récit russe.
Franck Madvon, à demain. Franck, merci beaucoup. Le mardi, on pousse les portes de l'Europe avec Caroline Gillet. C'est Caroline au pays des 27. Merci de frapper avant d'entrer.
France Inter. Le 18-20.
Courant d'air. Caroline, aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, de retour à Bruxelles j'ai envie de dire, et alors que les étudiants et étudiantes continuent à se mobiliser pour Gaza aux États-Unis, en France aussi, il y a aussi des manifestations de fonctionnaires européens. Place Schuman.
Oui, et Fabienne, il y a quoi autour du rond-point Schuman? On en a parlé il y a quelques semaines. On l'avait dit, il y avait
une
quoi
des quatre
comme institution?
Il y en avait une des quatre.
Eh bien, pour vous aider, je savais que vous auriez oublié, j'ai enregistré les infos sur le tournage de cette chronique. On est rond-point Schuman, il a plu, je suis assis sur un bord de banc où il n'y a pas trop de gouttes, il y a 3 militaires qui se dirigent vers le conseil, qui se trouve à ma droite, à gauche il y a la commission européenne, le bâtiment du Berlaymont, plein de touristes aussi, qui avancent en filmant la commission, en traversant et regardent pas. J'attends Guillaume Fin, qui est fonctionnaire, qui travaille au service extérieur de l'UE. Il est chef d'unité adjoint pour l'Afrique. Il vient ici, sur ce rond-point, tous les jeudis, faire un sitting silencieux. On va en parler, mais d'abord, ce n'est pas anodin, je vais m'asseoir à la terrasse d'Exki, une chaîne belge de café-restauration rapide, saine et très chère. Il y en a plusieurs dans le quartier. Voilà le bruit que font les chaises. Et Guillaume est là, je lui demande.
Il y a des exquis très stratégiques autour des institutions. Il y en a un ici, et il y en a un autre qui est devant le Parlement. Enfin, il y a tellement d'intérêt autour de ce rond-point.
Oui, non, c'est exactement ça. En fait, si vous vous installez dans l'un des exquis, vous apprenez plein de choses super intéressantes. Un petit peu comme quand à la photocopieuse, vous prenez des feuilles qui ont été oubliées et que là, vous apprenez des choses aussi intéressantes, souvent même plus intéressantes et plus utiles que dans les réunions formelles.
Les parents de Guillaume Fine étaient coopérants au Niger et au Togo dans les années 70. Lui a travaillé pour la coopération française en Jordanie pendant 2 ans, puis il a passé les concours d'ingénieur pour entrer dans l'administration européenne. Il s'est occupé de développement des infrastructures de base pendant 2 ans au Tchad, 3 ans à Haïti et 3 ans à Jérusalem et Gaza.
Moi, j'ai beaucoup idéalisé en fait la coopération, ce qu'on apportait, l'aide au développement, etc. Et puis petit à petit, voilà, j'ai réalisé que voilà que les puissances jouaient aussi leurs intérêts géostratégiques et que du coup, avant de parler de coopération au développement, il faut d'abord ne pas nuire au développement de ces pays. Et j'ai trouvé que l'échelon européen était vraiment l'échelon qui était le plus important, en tout cas dans l'action, dans le cadrage des GAFAM, dans la transition énergétique. Voilà, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut vraiment agir au niveau européen.
Je lui demande à quoi ça ressemble de travailler pour la Commission au Maghreb.
Il y a des accords cadres, en fait, qui sont décidés entre chaque pays et l'Union européenne. Et en fait, on aide le pays à mettre en œuvre certaines politiques sectorielles. Donc, par exemple, en Tunisie, le dernier projet que j'ai suivi, c'était un projet où, en fait, les revenus du tourisme peuvent non pas repartir vers les grands groupes internationaux, mais peut profiter vraiment à l'économie locale.
C'est quoi l'échange, le donnant-donnant ?
Donc il y a en fait ce que l'Union européenne apporte, et puis il y a évidemment ce pour lequel l'Union européenne est intéressée. Donc ça va être la présence des entreprises ou des investissements européens, l'approvisionnement énergétique, ou par exemple en aidant aussi les pays d'Afrique du Nord à se doter d'énergie renouvelable. Ce sont des pays qui pourront aussi exporter une partie de cette énergie renouvelable vers l'Union européenne. Donc ça c'est super intéressant.
C'est quoi ? C'est là on entend vraiment l'hélicoptère qui tourne au-dessus de nous. Il y a des gens qui regardent dans l'immeuble là en vert ce que peut être cet hélicoptère.
Excusez, la réunion n'était pas intéressante. Donc tout le monde va aux fenêtres dès qu'il y a un hélicoptère.
Moi j'ai vu tout à l'heure 3 militaires aller vers le conseil. Donc je sais pas s'il se passe un truc spécial aujourd'hui. J'aime bien faire mousser, faire semblant, ça donne du crunch à cette chronique. Donc là, c'est rigolo parce qu'au-dessus de nous, il y a le diplomate en chef qui parle des relations extérieures, donc dans les bureaux au-dessus. Et là-bas, au conseil, en vérité, c'est là que se prennent les décisions sur les actions extérieures. C'est là que se réunissent les chefs d'État.
C'est parfois un petit peu paradoxal parce qu'on est dans notre bureau à quelques dizaines de mètres. Et en fait, des grandes décisions se prennent, à 300 mètres. On sait que les chefs d'État sont là et de gouvernement. On sait que des choses se définissent pour des années à ce rond-point, là où on est actuellement. Voilà, on attend de savoir en fait ce qui va être décidé. Un petit peu aussi quand il y a des grandes manifestations qui passent toujours la rue de la loi jusqu'au rond-point Schuman, qui sont organisées par des syndicats, par des groupes de jeunes, par des mouvements associatifs. Nous, on est dans notre bureau et on est parfois pas au courant du sujet pour lequel ils manifestent.
Mais Guillaume et ses collègues aussi sortent parfois manifester. Dernièrement, contre la position initiale de l'UE face à la situation à Gaza. On ne se rend pas compte de l'extérieur, mais des manifestations de fonctionnaires qui ont un droit de réserve, c'est très très rare. Depuis que Guillaume travaille là, c'est arrivé seulement 2 autres fois. Une fois pour le climat, et une autre pour protester contre la nomination de l'ancien président de la Commission européenne, après son mandat, un haut poste auprès de la banque privée d'investissement américaine Goldman Sachs.
On souhaiterait, nous, qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. On a circulé une lettre en interne. Une pétition qui a recueilli énormément de signatures de fonctionnaires européens qu'on a donné à notre présidente. Et depuis le mois de décembre, tous les jeudis, on organise un petit sit-in et on aimerait que notre institution puisse peser plus dans le scénario actuel.
Voilà, fonctionnaire la journée, sit-in le jeudi.
Voilà, c'est ça.
Caroline Gillet, merci beaucoup
Fabienne.
Et vous revenez mardi prochain, bien sûr, au Pays des 27. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Ce soir, les recommandations officielles sur les écrans et les enfants entre limiter et interdire.
Les parents et les futurs parents vont retrouver ou découvrir les âges clés. 3 ans, 6 ans, 11 ans, jusqu'à 15 ans, la majorité numérique. Alors c'est parti très fort sur WhatsApp, Scarlett. Les enfants et les écrans, mais c'est une question de santé publique, il faut légiférer vite, 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 Florence. Et psychomotricienne en crèche, le matin, je vois des enfants arriver en poussette, devant l'écran du téléphone, je m'inquiète du manque de stimulation pour ces petits. Pour autant, je comprends aussi les difficultés des parents soumis aux injonctions sociales et aux regards réprobateurs.
Eh bien, vous êtes chaud, c'est bien. 01 45 24 7000. Nous serons avec les deux rapporteurs de ce rapport qui a été remis à Emmanuel Macron. Donc, vous pourrez leur poser toutes leurs questions, toutes vos questions. 01 45 24 7000.
Et les miennes aussi, alors. Ouais.
Tout ça, on remettra ça dans le bon sens tout à l'heure.
Zadig et Arte s'associent le temps d'un hors-série pour réfléchir à l'Europe telle qu'on la vit et telle qu'on la rêve. Récits, enquêtes et reportages signés par des intellectuels, des artistes et de grandes plumes européennes. Lola Lafont, Eri De Luca, Wim Wenders, Amélie Nothomb et bien d'autres.